Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à bord d'un nouveau numéro de Wagon Livre sur Radion. Yannick Petit avec vous jusqu'à 22h. La 17e édition de la Fête du Livre d'Autun s'est tenue les 12 et 13 avril dernier à la salle de l'Hexagone. Et pour la 4e année consécutive, Radion et Wagon Livre étaient une fois de plus partenaires de ce qui est, le temps d'un week-end, la plus grande librairie éphémère de Bourgogne. Nous vous proposerons donc ce soir un compte-rendu non exhaustif de ce salon. Alors au programme, Marie-Thérèse Berthier et son mari John Thomas Sweeney pour l'histoire des hospices de Beaune, une institution hospitalière sortie du Moyen-Âge. Un voyage dans le passé, dans ce superbe hôtel-dieu fondé par Nicolas Rollin et son épouse Guigonne de Salins. Nous donnerons la parole à deux jeunes créateurs présents à Autun pour le lancement officiel d'une bande dessinée disponible aux éditions de Bourgogne qui a pour titre « Retour en Autunois » dont l'action se déroule dans la cité éduenne. Journaliste et critique cinéma depuis plus de 20 ans, Didier Rodbétoni nous fera découvrir son dernier ouvrage « Les pages noires des méchants », c'est aux éditions Milan, un livre consacré aux méchants. Alors d'où viennent ces êtres qui incarnent le mal? Didier Rodbétoni répondra à cette question, notamment puisqu'il a étudié à la loupe ces monstres de la littérature, de la bande dessinée, du cinéma, de la télévision et des dessins animés. What else? Auteur du roman du café aux éditions du Rocher, Pascal Marmet, écrivain, romancier, expert en caféologie, évoquera ce petit grain sombre qui nous procure tant de plaisir. Mais sans plus tarder, ouvrons notre compte-rendu de la 17e fête du Livre d'Autun avec un jardinier, printemps oblige, et pas n'importe quel jardinier, puisqu'il est jardinier en chef du domaine national du Grand Parc de Versailles, un domaine riche de 4 siècles d'histoire, de 850 hectares, et planté, s'il vous plaît, de 850 000 arbres. Je veux parler d'Alain Baraton. Nous avons souhaité à Autun le faire parler de son dictionnaire amoureux des jardins aux éditions Plomb et nous lui avons demandé de nous parler des abeilles, première entrée de son passionnant dictionnaire. Alain Baraton à notre micro.
Les abeilles sont menacées par les pesticides, sont menacées par la disparition de leurs aires naturelles, j'allais dire de nourriture, elles sont menacées également par l'urbanisation et j'ai constaté que s'il n'y avait pas d'abeilles, il n'y aurait pas de fleurs, il n'y aurait pas d'arbres et s'il n'y avait ni fleurs ni arbres, il n'y aurait pas de jardin. Il me semblait donc logique et normal de rendre hommage à ces petites bestioles que j'apprécie particulièrement et qui sans elles, eh bien nous ne pourrions pas exister. Même si la phrase n'a jamais été signée d'Einstein, gardons-lui néanmoins ce mérite-là, il a été dit que si les abeilles disparaissaient, l'homme n'aurait plus que 40 années à vivre, on devrait méditer sur cette prophétie.
Alors soyons un petit peu plus joyeux avec la coccinelle.
C'est
l'ami des jardiniers.
Alors l'ami des jardiniers, donc il y a la coccinelle. Il n'y a pas que la coccinelle. Mais je constate que les trois amis, les trois symboles du métier qui est le mien, sont des fous ou des caractériels. Vous avez la coccinelle, vous avez le hérisson bien évidemment, et le rouge-gorge. Alors le rouge-gorge est un oiseau caractériel qui ne supporte pas la présence d'un autre oiseau dans le territoire qu'il s'est lui-même accaparé. Cet oiseau est dingue, il va jusqu'à se battre jusqu'à la mort en cas de franchissement de territoire. La coccinelle, pardonnez-moi, je vais peut-être heurter les oreilles de vos auditeurs, mais dans le domaine de la nymphomanie, on a rarement fait mieux. Imaginez que cette bestiole...
Une bête de sexe.
C'est une bête de sexe qui possède dans son abdomen une spermathèque. Elle est capable, le terme existe vraiment, elle est capable de stocker la semence de ses très multiples partenaires pour pouvoir ensuite et tranquillement pondre autant de larves qu'elle le souhaite. Et puis, il y a le hérisson, aux pratiques plus que douteuses. Nous sommes dans le SM, dans ce qu'il a de plus incroyable, et je me suis souvent demandé comment le hérisson faisait pour s'accoupler, voyez-vous. Avant moi, Pline, cet explorateur italien, romain, pour être plus exact, ne savait pas comment le hérisson pouvait se reproduire. Il avait écrit que le hérisson fait l'amour debout en s'embrassant. C'est joli, mais c'est pas tout à fait la vérité. En un mot, la reproduction du hérisson, c'est un combat d'un mâle et d'une femelle. Ils se griffent, ils se mordent, ils s'urinent et se défèquent dessus. C'est épouvantable. Et lorsque la femelle n'en peut plus, alors en signe de soumission, elle rabat ses piquants sur le devant, ce qui permet à monsieur de satisfaire ses besoins. Avouez que c'est quand même terrible et cruel, et je vous envisage vivement de réfléchir. Si demain vous pensiez être réincarné en animal, attention, évitez le hérisson, ou du moins d'être femelle.
Est-ce que, Alain Baraton, vous pouvez nous expliquer l'origine de, je reviens à la coccinelle, de coccinelle va dire au bon Dieu qu'il fera beau demain, cette origine de la bête à bon Dieu.
Il y a une légende
c'est magnifique,
qui,
ça,
oui,
une médiévale.
Une très belle histoire tout à fait qui se passe à Paris, qui se passe là où l'on exécute les condamnés à mort, un supplicié à la tête sur le billot, le bourreau est déjà à côté avec la hache prêt à fendre le cou du malheureux en deux, quand cet homme observe sur le cou du malheureux une petite bestiole, une coccinelle. L'homme est délicat, il est romantique, comme quoi on peut être bourreau et romantique, et avec ses énormes doigts, j'imagine qu'il a de gros doigts, il attrape délicatement le petit insecte pour le poser à côté. Là, il reprend sa hache, il va à nouveau pour la basculer sur le cou du supplicié quand la coccinelle vient se reposer. On en déduit que celle-ci ne veut pas de l'exécution capitale, on en déduit donc que c'est une bête à bon Dieu, et grâce à la présence de la bestiole, eh bien, le condamné à mort sera gracié.
Alors, bien sûr, vous évoquez un très grand nombre de jardins, le jardin d'Éden, hein, les jardins de l'Alcazar, la bambuserie de Prafrance. Ça m'a fait plaisir parce que je l'avais visité quand j'étais adolescent, cette bambuserie de Prafrance, dans le département du Gard ou de l'Hérault.
Je ne sais plus dans quel département, je dirais plutôt du Gard.
Oui,
et c'est un lieu que j'apprécie particulièrement parce que j'aime bien l'idée qu'un jardin vous fasse voyager. Un jardin, ce n'est pas seulement un agencement de plantes, c'est une âme, c'est une expression, c'est une évasion. Et quand on pénètre dans cette bambouseraie, on est ailleurs, on est loin de tout. Et voir des végétaux que je croyais uniquement capables de vivre en Asie, eh bien on est véritablement transporté. Et je repars là dans les jours qui viennent justement dans cette bambouseraie, parce qu'il y a une journée qui est consacrée au bambou, et j'en suis très heureux. Puis je vais vous faire également une petite confidence que je ne crois pas avoir écrit dans mon dictionnaire amoureux des jardins. J'étais très ami avec Loulou Gasté, le mari de Lynn Renault. Et Loulou Gasté m'avait demandé de planter dans son jardin, près de Paris, des bambous. Il me disait, cette plante me porte bonheur. Tu vois, quand je touche la plante, je tiens la vie par le bambou. Et j'ai toujours trouvé ça très drôle et amusant. Donc moi aussi, j'aime le bambou parce que je pense que cette plante me porte bonheur.
Alors, vous mentionnez là ce jeu de mots. J'ai pensé aussi au jardin. Et vous en parlez, ce jardin extraordinaire de Charles Trenet, cette chanson... formidable aussi, c'est vraiment un dictionnaire amoureux. Il a fallu élaguer, j'imagine. Là.
Oui, le jardinier a dû élaguer, effectivement. Bravo pour le calembour. Non, je parle de cette chanson parce que je suis un petit peu désolé pour cette chanson. Cette chanson, à l'origine, est très belle. Mais je fais partie de ceux qui l'ont vraiment, connue à travers une publicité pour des déodorants. Ou des désodorisants plutôt. Hein, c'est un jardin et on le voit qui fait pchup-pchup dans la maison pour qu'il y ait un air respirable. Je trouve ça un petit peu triste quand même que des grands noms de la chanson se soient galvaudés en vendant leur nom pour de la publicité. Néanmoins, cette chanson fait partie du patrimoine français et elle méritait de figurer dans mon dictionnaire amoureux.
Alors vous parlez du jardin de banlieue, de Central Park, le jardin de Curé aussi. C'est très intéressant, le jardin de Curé.
Oui, c'est l'occasion aussi de rappeler ce qu'est un jardin. Ce dictionnaire amoureux, c'est une errance philosophique, c'est une manière de parler des jardins avec ma fibre et mon émotion. Et je veux rappeler également qu'il y a des règles. Un jardin de curé, c'est pas seulement un jardin où les plantes semblent avoir été jetées ça et là. Non, non. Un jardin de curé obéit à des règles strictes. Je rappelle quelles sont ces règles.
Alors, il y a les jardins anglais, il y a les jardins chinois, les jardins italiens. C'est vraiment d'une richesse formidable. Et on prend vraiment plaisir à se promener dans ces pages, telle une forêt. On est émerveillé par tout ce que l'on apprend. Alors, bien sûr, les histoires.
Oui. Mais là, pardonnez-moi de vous interrompre, vous venez d'employer un mot très important, le mot plaisir. Quand je réponds aux éditeurs d'Inter aux questions sur le jardin, je rappelle que le jardin doit rester source de plaisir. Comment pouvons-nous concevoir aujourd'hui prendre du plaisir en traitant des produits? Vous imaginez un jardinier heureux quand il est habillé façon cosmonaute?
Mais tout le monde ne veut pas faire du purin d'ortie.
Eh bien, ce n'est pas une question de faire ou ne pas faire. Si le jardin devient une contrainte, si cela devient l'occasion de polluer ou de détruire, où est le plaisir? Le jardin doit être du plaisir, c'est du bonheur. Et je dis souvent, par exemple, qu'un jardin est beau quand on le quitte à regret. Eh bien voilà, donc le mot plaisir me fait plaisir, parce que c'est la définition même d'un jardin, un lieu qui vous donne du plaisir.
Et puis alors j'ai appris, alors je reste sur les orties, j'ai appris que les orties entraient dans la fabrication de la pâte à papier qui sert pour les billets de banque.
Eh oui, tout à fait, c'est une variété d'orties africaines qui effectivement rentre dans la fabrication des billets. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que depuis toujours, l'argent me brûle les doigts, voyez-vous.
Ah oui, bien sûr. Et alors il y a des choses cocasses, par exemple vous expliquez à propos des orties, toujours que les Grecs se caressaient le sexe avec le feuillage.
Oui, c'était, paraît-il, extrêmement revigorant et j'attends toujours un ami pour expérimenter et me dire ensuite de quoi il en retourne.
Un petit mot de Saint Fiacre, le patron des jardiniers,
qui était spécialisé dans le traitement des hémorroïdes. Avouez que j'ai quand même pas de chance dans mon métier. Voltaire disait « jardinier le plus noble des métiers » et Saint Fiacre soigne les hémorroïdes. Il ne fait pas que ça, fort heureusement, et j'ai conscience qu'il faut aussi soigner ce problème. Mais c'est vrai que Saint Fiacre est un homme assez étrange et qui a donné le nom de quantité de choses. Saviez-vous, par exemple, les diligences, les carrosses, on les appelle des fiacres. Tout simplement que la première entreprise parisienne de location de fiacres, eh bien, s'était installée justement sous un panneau où il y avait Saint Fiacre. Donc Saint Fiacre est notre patron, mais malheureusement aujourd'hui on ne fête plus les saints patrons et c'est regrettable.
Tout le monde à présent a l'esprit le il faut cultiver son jardin qui clôt le conte philosophique bien célèbre de Voltaire. Et puis alors il y a, à propos de la tondeuse à gazon, vous citez De Vos, un jardinier qui sabote une pelouse est un assassin en herbe.
C'est merveilleux comme qu'on est. Il est possible de dire de grandes phrases, de belles phrases avec de l'humour. L'humour, c'est la vie. L'humour, c'est le moteur. J'ai du mal à comprendre pourquoi, quand on parle d'une activité, que ce soit une activité artistique, politique ou littéraire, il faille être sinistre, être triste. Le jardin, nous en avons parlé il y a un instant, c'est le plaisir. Le jardin, c'est l'humour. Vous savez, j'ai la chance de sortir dans 15 jours un ouvrage qui s'appelle L'amour au jardin. Et bien, dans cet ouvrage, je liste entre autres le nom des plantes qui ont des noms curieux. Il y a des plantes qui s'appellent, c'est le vrai nom, Suzanne aux yeux noirs, Marie derrière l'hôpital, arbre à couilles, avouez que c'est quand même pittoresque. Et donc je pense que là où il y a de l'humour, il y a du talent. Je suis persuadé qu'on ne peut pas être quelqu'un de compétent, de doué, si l'on n'a pas un minimum d'autodérision et d'un sens aigu de l'humour.
C'était Alain Baraton à notre micro pour son dictionnaire amoureux des jardins. Et c'est aux éditions Plomb que vous pouvez vous le procurer auprès de vos libraires. Le compte-rendu de la 17e fête du livre d'Autun, c'est sur votre radio locale jusqu'à 22h. À suivre, après la pause musicale, une escapade vers le passé, puisqu'il sera question de l'histoire des Hospices de Beaune, cet hôtel-dieu bâti par Nicolas Rollin et son épouse Guigonne de Salins au 15e siècle. Tout de suite, on écoute Pharrell Williams, Happy. Bonne soirée sur Radion. Bring me
Radion.
On se retrouve toujours à bord de Wagon Livre pour une émission de compte-rendu du Salon du Livre d'Autun, cette 17e fête du livre qui s'est tenue les 12 et 13 avril dernier. Le prix littéraire du Morvan 2014 a d'ailleurs été décerné à la fête du livre d'Autun. Ce prix littéraire du Morvan 2014 récompense cette année Jean-François Bazin pour son roman historique « Les Compagnons du Grand Flot » paru aux éditions Kalman-Lévy, un beau roman qui ressuscite avec brio un métier pittoresque, celui de flotteur. Le prix littéraire donc du Morvan récompense un journaliste, un écrivain et récompense aussi finalement celui qui fut un temps président du conseil régional de Bourgogne. Nous avions d'ailleurs reçu le lauréat de ce prix littéraire devant notre micro en mars dernier. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les Compagnons du Grand Flot, donc prix littéraire du Morvan 2014, eh bien vous trouverez l'émission disponible en podcast sur le site de Radion, www.radion.fr. Petite immersion cette fois-ci dans l'histoire des Hospices de Beaune, titre du remarquable travail de deux historiens spécialistes de la Bourgogne. Voici Marie-Thérèse Berthier et John Thomas Sweeney pour évoquer le prestige de cette institution hospitalière dont la renommée dépasse nos frontières hexagonales.
Le prestige de cet hôpital existait déjà, puisqu'on voit que déjà au 15e siècle, 16e siècle, 17e siècle, on avait déjà des visites continuelles de têtes couronnées qui venaient voir comment était cet établissement conçu pour que les pauvres soient soignés dans le décor d'un château, comme des seigneurs. Donc tout le monde accourait de partout pour voir comment cette maison pouvait être aussi bien gérée, les personnes aussi bien soignées. Donc déjà, il y avait un certain prestige qui a toujours été attaché, on le voit par les archives, bien avant qu'il y ait la vente des vins et bien sûr la médiatisation actuelle.
Alors, quel nom doit-on associer à la fondation des Hospices de Beaune ?
Alors, bien entendu, c'est le chancelier Nicolas Rollin, sur lequel nous avons fait une biographie, mon mari et moi, et son épouse, Guigone de Salins, d'autant plus que Nicolas Rollin donc, était originaire d'Autun. Vous connaissez son hôtel particulier qui a été transformé en musée, voilà, à côté de la cathédrale Saint-Lazare. Voilà, c'est le nom. Alors, si vous voulez, nous, après avoir fait ces biographies de Nicolas Rollin et Guigone de Salins, nous nous sommes demandé comment cette institution avait pu survivre pendant 5 siècles, portée par qui. Donc on voulait savoir quels étaient ces hommes et ces femmes, aussi bien les hommes et les femmes qui travaillaient dans cet hôpital, comme docteurs ou les sœurs, comme infirmières, les hospitalières, le personnel soignant, que tous ces donateurs qui ont permis, puisqu'il s'agissait d'un hôpital fondé par des laïcs, donc laïcs, hein, comment il avait pu survivre à travers les siècles, donc indépendant de l'État, puisque c'est un établissement public simplement depuis 1940. Hein. Donc on voulait savoir qui étaient ces hommes et ces femmes qui avaient porté, qui avaient donné d'eux-mêmes, soit de leur temps pour soigner, soit de leurs biens pour que l'hôpital puisse continuer à tourner. Et on a découvert, c'était vraiment fabuleux, puisque ce sont tous les gens, tous les habitants de Beaune, de la côte de Beaune principalement, autour, et de la plaine également, qui ont donné d'eux-mêmes pour que cet hôpital puisse survivre. Et je crois que c'est un exemple unique au monde, tant au niveau de l'organisation, de la survie de cet hôpital, que du domaine viticole, qui est bien sûr aussi un exemple. On n'a jamais vu ça, nous avons cherché, on pensait trouver des exemples peut-être en Italie ou ailleurs, où il y a eu une continuité, puisque la plupart des domaines viticoles à la Révolution, donc les biens étant, qui appartenaient à des abbayes, tout ça, ont été confisqués, et donc les vignes ont été vendues. Les hospices sont parvenus donc à garder leurs vignes, et donc il y a une continuité de gestion dans ce domaine viticole qui est unique au monde.
Alors aujourd'hui, les Hospices de Beaune, à qui appartiennent-ils ? Vont-ils être rachetés par de richissimes milliardaires chinois ? Parce qu'il quelque chose de ce goût-là dans la presse.
Depuis la dernière guerre, donc c'est un établissement public.
Mais à qui appartient-il ? À l'État ?
Ben oui.
Avec un patrimoine privé.
Comment se sont opérées vos recherches? Alors, vous avez eu facilement accès aux archives des hospices. Tout est sur place.
Donc, nous avons travaillé sur place pendant 7 ans. Mon mari et moi.
Vous décourager.
Sans jamais, parce que c'était passionnant. Le travail n'avait pas été fait, reconstituer toute cette histoire. Donc, il y avait le plaisir de la découverte, si vous voulez. Et ça, c'est vraiment ce qui vous motive le plus, de découvrir ce qu'on ne sait pas. Et c'était aussi un énorme puzzle, parce que c'était quand même un petit peu... Il fallait reconstituer toutes les pièces, ne serait-ce que le patrimoine foncier, le patrimoine viticole, tout ça. Il a fallu procéder à la fois, bien sûr, dépouiller absolument toutes les archives, qu'il s'agisse des contrats, des donations, des legs, les ventes, les acquisitions. Les hospices aussi, ont aussi su comment acheter au moment opportun, justement, pour arriver à faire de ce vignoble quelque chose d'exceptionnel.
Il y a, dans l'histoire du cinéma français, ce film La Grande Vadrouille, où des scènes se passent aux hospices de Beaune. Alors, pardon, cela peut vous sembler anecdotique, vous qui êtes érudit et qui avez dressé la liste des donateurs avec une méticulosité absolument remarquable. Ma question vous paraît peut-être un peu farfelue.
Un peu, oui, un peu farfelue, mais ça fait un bon décor pour un film des hospices de Beaune, en fait.
Il n'y a pas de nouveau décor, n'est-ce pas?
Je voudrais aussi vous interpeller sur le fait que dans Lyon et notamment à Tonnerre, il y a aussi un très très bel hôpital, l'hôpital Marguerite de Bourgogne. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les liens peut-être historiques, architecturaux entre ces deux bâtiments? Sont-ils de la même époque? Et est-ce que lequel a été construit en premier? Tonnerre?
C'est Tonnerre. C'est précédemment. Tonnerre avait eu une dotation en vigne, alors que l'Hôtel Dieu a été doté en rente sur les salines de Salins. Rollin s'est dit, c'est pas la peine. D'une part, les vignes, on l'a vu d'ailleurs à Tonnerre et dans d'autres hôpitaux, les vignes n'ont pas permis de continuer à faire tourner l'hôpital parce que les revenus des vignes étaient très aléatoires pendant des siècles. Hein. Aujourd'hui, on a la chance pratiquement de pouvoir avoir d'excellents millésimes pratiquement tous les ans. Mais pendant des siècles, c'était pas comme ça. On pouvait avoir des années avec des pertes énormes, tout ça. Donc, Rollin avait doté... Tonnerre, comme vous dites, Tonnerre, lui, avait été doté en vigne, si je me souviens bien. Hein? Mais ça n'a pas permis de le faire tenir. Mais l'architecture, donc, si vous voulez, pour la grande salle des pauvres, on peut dire qu'il y a une inspiration tout à fait sur l'hôpital de Tonnerre, sur Notre-Dame de Fontenay. D'autant plus que Rollin avait son château au Rissé, qui est vraiment juste à côté. Donc, il passait fréquemment par là. Donc, on peut dire, mais vous aviez cette salle, si vous voulez, la voûte de cette salle, c'est aussi la salle du Parlement, du Palais à Paris, dans l'île de la Cité, où Rollin était avocat. Donc, on la retrouve. Mais je pense qu'il y a quand même, peut-être pour cette voûte, on peut dire qu'il y a une inspiration de Tonnerre.
Jean-Thomas Sweeney, de quelle manière doit-on visiter intelligemment les hospices? On y va comme ça Mais ou est-ce qu'il y a une manière, plutôt de manière guidée?
Mais
Ça dépend,
bien sûr commencer avec l'entrée et l'auvent.
Est-ce que vous êtes disponible pour une visite des hospices, vous deux?
Tout à fait.
Mais il faut commencer avec, il faut commencer avec l'auvent.
Le petit auvent
sur roue, c'est très très intéressant architecturalement et symboliquement. Aussi, la porte d'entrée aussi. Il y en a beaucoup de symboles sur la porte d'entrée avec le salamandre. Et après, quand vous entrez dedans, dans la cour, vous êtes émerveillé tout autour de vous avec la toiture, le cour en pavé, la fontaine. Et une fois que vous avez vu pendant une douzaine de minutes cette magnifique construction, vous entrez dans la salle des pauvres. Et là, vous découvrez plein de choses.
Votre joli accent que nous apprécions tant laisse entendre que vous n'êtes pas français d'origine, vous êtes britannique?
Non, je suis américain.
Vous êtes américain?
Américain.
L'Amérique regarde les hospices de Beaune comme... un monument très représentatif de la Bourgogne et de la France autour de cette culture du vin et de cet art de vivre.
Exactement. C'est les hospices, les Américains, ils regardent les hospices comme une institution unique dans le monde à cause, premièrement, de l'hôpital pour les pauvres et les malades. Hein? Les Américains, bien sûr, l'histoire de l'Amérique, ça a commencé au 18e siècle. Donc, les Américains sont très, très émerveillés par les hospices, mais aussi, avec le vin des hospices qui attire les investisseurs et les acheteurs américains.
L'histoire des hospices de Beaune, vins, domaines et donateurs est disponible en librairie aux éditions Guy Trédaniel, un captivant voyage dans le passé qui, sous la plume de Marie-Thérèse Berthier et John Thomas Sweeney, ressuscite la mémoire des hospices de Beaune et de son créateur Nicolas Rollin, natif d'Autun. Place à la musique avant de faire la connaissance de Yasmouna Singhé et de Maxime Noyon, deux jeunes Autunois à l'avenir prometteur qui nous présenteront leur bande dessinée Retour en Autunois paru aux éditions de Bourgogne. On vous laisse en compagnie de Enzo, quelqu'un de bien. Vous écoutez Wagon Livre, votre rendez-vous culturel. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h sur Radion.
Debout devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture? Dans un joli cadre verni, en évidence sur un mur. Un mariage en technicolore, un couple dans les tons pastels. Assez d'argent sans trop d'efforts pour deux, trois folies mensuelles. Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes. Mais ses rêves en elle se fondent, maintenant son espoir serait d'être juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien, sans grand destin. Une amie à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. Il m'arrive aussi de ces heures où ma vie se penche sur le vide. Couper tous les bruits du moteur au-dessus de terres arides. Je plane à l'aube d'un malaise comme un soleil qui veut du mal. Aucune réponse n'apaise mes questions à la verticale. Je dis bonjour à la boulangère, je tiens la porte à la vieille dame. Des fleurs pour la fête des mères et ce week-end à Amsterdam. Pour que tu m'aimes encore un peu quand je n'attends que du mépris. À l'heure où s'enfuit le bon Dieu, qui pourrait me dire si je suis juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien, sans grand destin. Une amie à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. J'aime à penser que tous les hommes s'arrêtent parfois de poursuivre l'ambition de marcher sur Rome et connaissent la peur de vivre. Sur le bas-côté de la route, sur la bande d'arrêt d'urgence. Comme des gens qui parlent et qui doutent d'être au-delà des apparences. Juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien.
Bourgogne.
Les éditions de Bourgogne l'ont officiellement présenté lors de la 17e fête du livre d'Autun qui s'est tenue à la salle de l'Hexagone les 12 et 13 avril dernier. Je veux parler de la bande dessinée de deux jeunes Autunois, Yasmouna Singhe et Maxime Noyon, retour en Autunois. Faisons sans plus tarder connaissance avec ces deux jeunes talents et d'abord avec le dessinateur Yasmouna Singhe.
Je suis Yasmouna Singhe, je suis artiste graphiste. Donc j'ai fait les Beaux-Arts de Chalon et de Dijon, donc voilà, c'était pour me situer rapidement. J'avais déjà réalisé une bande dessinée expérimentale en 2011, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, il s'agit d'une bande dessinée plus officielle, donc nous sommes très fiers de l'avoir réalisée avec Maxime et Myriam Ayoul, puisqu'il s'agit d'une bande dessinée tout public, en couleur, dans un format... Nous dirons académique, dans un format académique, puisqu'il s'agit de 47 planches en couleur, un album cartonné, qui parle donc d'introspection du narrateur. Alors, je laisse cette partie à Maxime, qui est scénariste. Mais voilà, disons que cette fois-ci, par rapport à 2011, nous avons fait une bande dessinée beaucoup plus aboutie, puisque la première fois, t'étais assumé aussi, mais c'était une bande dessinée plus expérimentale.
Il faut dire aussi, Yas, que bien évidemment, c'est une bande dessinée qui fait la promotion du patrimoine d'Autun, avec bien sûr donc en décor les monuments, qu'ils soient médiévaux, gallo-romains, de cette belle ville d'Autun où nous nous trouvons en ce moment pour enregistrer ce reportage. Et puis, bien sûr, il y a un arrière-fond humain, dramatique, mais qui... Vous aimez bien exploiter le psychologique des personnages. Je me rappelle, Yas, il y a 3 ans, vous aviez beaucoup insisté à l'époque sur vos dessins en disant qu'il y avait un message de paix, de fraternité, de rejet du racisme, de l'intolérance. Je me souviens de ce discours que vous aviez eu à l'époque devant notre micro.
Oui, alors le discours n'a pas tellement changé et je trouve qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut parler d'ouverture puisqu'il s'agit là, encore une fois, d'une collaboration. Maxime qui a grandi à Autun, moi qui a grandi au Sri Lanka, qui est arrivé donc à Autun à l'âge de 10 ans. Donc pour moi, Autun, c'est une vision d'une ville qui m'a accueilli, alors que pour Maxime, c'est plutôt sa ville natale.
C'est ça, c'est son racine. Voilà, exactement. Vous, c'est une ville où voilà. Vous avez été accueilli.
Donc je pense que cette bande dessinée a pour but, c'est de dire que voilà, c'est deux perceptions différentes d'une même ville, et qu'est-ce qui a fait que nous avons quand même réussi à grandir dans cette ville avec beaucoup de souvenirs en commun, à quel point nous sommes fraternels, disons, dans ces souvenirs, alors que nous venions pas du tout du même monde, du même milieu. Alors je pense que c'est un pari réussi à ce niveau-là, puisque la bande dessinée parle d'une personne qui part, qui voyage beaucoup. Encore une fois, je voudrais laisser la parole à Maxime pour expliquer le scénario. Mais moi, ce qui importe toujours, c'est de collaborer avec des personnes qui viennent de milieux différents et de montrer à quel point c'est possible de faire des projets, de partager avec des gens. Alors que peu importe d'où on vient, c'est important, mais c'est pas ce qui importe pour avancer ensemble.
Alors je rappelle que nous parlons de la bande dessinée de Yasmouna Singhe et de Maxime Noyon avec Myriam Ayoul, coloriste. C'est aux éditions de Bourgogne. Alors il brûle d'impatience de s'exprimer, Maxime Noyon, le scénariste. Maxime, d'abord, bonjour.
Bonjour.
Et dans un premier temps, je vous pose la même question qu'à Yas. Est-ce que je peux vous demander de nous glisser votre carte de visite? Quel est votre âge? Qui êtes-vous? Et puis comment avez-vous rencontré Yas? Comment cette... relation amicale et artistique a pu éclore.
Donc Maxime Noyon, j'ai 26 ans et je suis actuellement artiste-auteur. J'ai rencontré Yas en fait alors que j'étais dans l'association Artwork. Donc il y a une association qui faisait la promotion des artistes et qui organisait des expositions. Donc on s'est rencontrés en 2011 à l'occasion de Autun Vu Par, donc qui était la première exposition qu'Artwork organisait. Donc à ce moment-là, en fait, on a exposé côte à côte. On s'est retrouvés ensuite l'année suivante pour une exposition qui s'appelait Macon Vu Par, donc toujours dans le cadre de l'association Artwork. Et là, on a collaboré pour la première fois sur une œuvre en commun. Et donc c'est là qu'on s'est rendu compte qu'une collaboration entre nous deux était quelque chose qui fonctionnait plutôt pas mal et que ça marchait plutôt bien.
Alors le scénariste, il conçoit l'histoire et Yas met en image l'histoire. Alors quel est le droit de regard du scénariste sur les illustrations et les dessins du dessinateur, forcément? Il censure, il s'agace, il est toujours d'accord.
Il interdit directement la censure la plus totale, oui, évidemment. Non, plus sérieusement, ce qui est très bien avec Yas, en fait, c'est qu'il a un regard et il a une démarche qui est d'essayer de coller au plus près du scénario. C'est-à-dire qu'il est toujours très attentif à tout ce que j'ai pu soumettre comme idée, aux ambiances et aux caractéristiques des personnages que moi je voulais intégrer. Et je pense que j'ai rarement eu à redire quoi que ce soit en fait sur les dessins qu'il me proposait, parce que immédiatement en fait il m'offrait une vision alors qui était forcément différente de la mienne, mais qui venait compléter tout ce que je n'avais pas imaginé.
En fait, quelque part, le regard de Yas, c'est un peu un regard étranger. Il apporte un œil neuf sur Autun.
Alors sur Autun,
étant d'origine sri-lankaise, et cette ville ayant été sa ville d'adoption plutôt que la ville comme la vôtre, qui est votre ville originelle.
Alors le regard différent, il le porte à travers le dessin. C'est-à-dire que le dessin, c'est une manière de réinventer la ville. Enfin, c'est ce que je dis souvent en tout cas. C'est vraiment une manière de la représenter à nouveau et de la redécouvrir donc à travers son trait. Donc c'est à mon avis ce qui se passe justement dans Retour en Autunois, c'est que tous les monuments sont reconnaissables, mais en même temps ce ne sont pas les monuments, ce sont des dessins. Donc il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose qui vient apporter un décalage, qui nous les fait regarder à nouveau en fait.
Alors comment choisir par exemple l'image sur la couverture? Là nous avons un plan lointain de Autun, on reconnaît bien sûr cette magnifique cathédrale Saint-Lazare. Et puis on voit qu'il y a une main qui tient un appareil photo. Comment s'opère le choix de la vignette qui va être couverture de la bande dessinée? Parce qu'il faut être vendeur, il faut être attrayant. Qui prend la parole, Yas?
Alors pour la couverture, il faut savoir que oui, il y a quand même cette contrainte d'être vendeur. Parce qu'en règle générale, en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre en compte dans la création, de savoir si ça se vend ou non, puisqu'en fait, l'important, c'est de créer, c'est de faire quelque chose en étant sincère avec soi-même. Pour la couverture, c'est un petit peu différent, c'est vrai, parce qu'on doit aussi faire en sorte que la couverture donne bien un aperçu de la bande dessinée. Et c'est le cas, puisque en fait, alors il s'agit d'une main qui tient un appareil photo avec une vue d'Autun qui se dessine.
Un peu panoramique finalement.
Voilà, exactement. Et il faut savoir que alors, la main tient un appareil photo avec un objectif fermé. Donc ce qui pourrait supposer quelque chose, alors c'est subtil, c'est pour les gens qui veulent le voir, il s'agit d'un caméra qui n'est pas encore ouvert, que l'objectif est encore fermé. Donc ça donne l'idée en fait de Julien qui est le héros de l'histoire. Ça donne une petite idée de l'esprit dans lequel Julien arrive à Autun.
Retour en Autunois, c'est le titre de la bande dessinée des deux jeunes Autunois que vous venez d'entendre, Yas Mounasinghe et Maxime Noyon, avec Autun en personnage principal de cette histoire teintée de romance et d'évasion. Un scénario bien pensé et remarquablement illustré par des dessins saisissants de réalisme et d'une très grande qualité. C'est une BD éditée par les éditions de Bourgogne, disponible chez vos libraires. On se retrouve juste après avec Didier Rodbetoni pour la présentation de son dernier livre paru aux éditions Milan. Nous feuilleterons et tournerons avec lui les pages noires des méchants. Bonne soirée sur Radion, on vous laisse en musique avec Sarah Mandiano, J'ai des doutes. C'était en 1991.
Soit tout sans mission secrète. J'ai des doutes quand je défais les mains. Radion 90.5. Radion.
Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes ensemble jusqu'à 22h et vous êtes à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. C'est ce soir le 158e numéro d'une émission apparue sur les ondes de Radion en novembre 2010. Et si vous avez manqué le début de notre rendez-vous, consacré à la 17e fête du livre d'Autun, retrouvez-le d'un simple clic en podcast d'ici quelques jours sur le site de Radion, www.radion.fr. Vous allez dans l'onglet émissions, vous choisissez Wagon Livre et ensuite les invités. Sorti en novembre 2013, coup de projecteur sur le dernier ouvrage de Didier Rod-Bétony, rencontré à Autun. Son ouvrage a pour titre « Les pages noires des méchants », sous-titré « Le grand livre de celles et ceux que vous avez adoré, détesté ». Tout de suite, Didier Rod-Bétony, au micro de Wagon Livre. C'était le 12 avril dernier, lors de la 17e fête du livre à Autun.
J'ai été pendant plus de 20 ans critique de cinéma dans de nombreux journaux. J'ai été libraire aussi et depuis quelques années, j'écris essentiellement des livres autour du cinéma ou en tout cas autour de la culture.
Alors, les pages noires des méchants, comment s'organise ce livre? À qui s'adresse-t-il? Et qui trouve-t-on?
Alors, il s'adresse à tous les grands adolescents qui sont encore en nous, puisque l'idée du livre, c'est de dresser une sorte d'annuaire de 350 méchants issus de la culture populaire, que ce soit le cinéma, la télévision, la bande dessinée, les contes, la littérature, et plutôt des références qui renvoient à notre enfance, à notre jeunesse, à notre adolescence. Donc, ça va des méchants dans Goldorak jusqu'à Fantomas, ça va des Thénardier jusqu'à Milady. Voilà, donc on a un panachage de gens très divers qui, à mon avis, peuvent toucher toutes les générations. Donc c'est une forme d'annuaire, puisque ces méchants sont regroupés non pas par ordre alphabétique ou chronologique, mais comme dans un annuaire, par profession, c'est-à-dire les assoiffés de pouvoir, les cupides, les traîtres, les sorcières, les mégères.
Alors j'en vois J.R. par exemple.
Voilà, tout à fait. Bah, c'est un grand méchant. Méchant de l'histoire de la télévision, évidemment.
Grand gentil dans la vie, mais grand méchant à l'écran.
Et voilà. Alors l'idée, c'était de trouver plutôt les personnages et pas leurs incarnations, pas leurs acteurs. Oui, il y a tous les méchants de Star Wars, les méchants de Harry Potter. Voilà, il y a une palette vraiment très large pour rappeler des souvenirs à toutes les générations.
Alors pour l'auteur, ça demande quand même une culture très généraliste, puisqu'on pioche effectivement dans la littérature, dans le cinéma, dans la bande dessinée. Vous n'aviez que l'embarras du choix.
Ah, j'avais que l'embarras du choix. Je pense que la liste de 350 aurait pu être double ou triple, puisque à chaque fois que je discute avec des gens qui feuillettent le livre, ils me signalent des méchants qui les ont marqués dans leur enfance, qui ne sont pas dans le livre, qui le voilà. Bon, et pourtant, je l'ai constitué en travaillant avec beaucoup d'amis, beaucoup de proches, d'enfants de proches, qui m'ont dressé des listes de leurs méchants favoris. Et à partir de là, moi, j'ai essayé de constituer la liste idéale. Mais elle n'est idéale que pour moi, finalement.
Alors, Didier Rod-Bétony, un vrai méchant, mais que vous avez au fond du cœur. Et pourquoi peut-on aimer un méchant? Parce que finalement, quand on fait un livre sur les méchants, il faut les aimer.
Évidemment, mais moi...
Aimer les méchants, c'est surprenant quand même.
Oui, en même temps, moi je suis parti de la phrase d'Hitchcock qui disait « Plus réussi est le méchant, plus réussi est le film ». Et donc, je pense que pour moi, les méchants sont les personnages souvent les plus passionnants, les plus riches, parce qu'il y a des méchants qui sont uniquement méchants, qui n'existent que par leur méchanceté, qui ne sont pas forcément très intéressants. Des grands violents, les méchants dans James Bond ne sont pas forcément passionnants. Par contre, il y a des méchants qui sont beaucoup plus ambigus, beaucoup plus... on comprend leur motivation, la cause de leur méchanceté, que ce soit la reine dans Blanche-Neige qui refuse de vieillir, que ce soit le capitaine Ahab qui est tenu par son obsession de la baleine blanche qu'il a à un moment donné agressé, que ce soit le capitaine Crochet, que ce soit Milady qui veut s'imposer dans un monde d'hommes. Les grands méchants, les méchants passionnants sont des méchants complexes, évidemment, et ils ont on les aime parce qu'en fait les méchants se permettent tous ce que l'on réfrène, c'est-à-dire qu'on est tous un peu violent, un peu jaloux, un peu envieux, un peu cupide, mais la civilisation, la culture, l'éducation font qu'on se retient d'être vraiment méchant, vraiment violent, vraiment avare. Eux, ils se permettent tout ça et c'est très jubilatoire finalement.
Ce qui est quand même incroyable, c'est que finalement, il n'y a pas de vrai bon film, de vrai BD sans un bon méchant.
Exactement.
Quoi. Si
mais
on met des gens gentils, c'est pas intéressant.
C'est pas très intéressant. Les méchants, c'est l'épice qui font des plats, quelque chose d'inoubliable et d'absolument unique.
Alors, il y a des méchants aussi dans l'histoire de la France. Il y en a quelques-uns.
Alors, moi, ce ne sont que des méchants de fiction.
On est d'accord.
Dans mon livre. Mais évidemment, dans l'histoire fourmille de méchants. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de méchants de fiction qui nous rappellent étrangement des méchants de la réalité, qu'ils soient de la réalité historique ou de la réalité contemporaine. Finalement, il y a les méchants qui sont obsédés par le pouvoir. On en connaît tous autour de nous dans la vie politique, notamment les méchants qui sont obsédés par l'argent. On en connaît tous. L'actualité en regorge au quotidien. Mais finalement, ils sont moins intéressants, ces méchants de la réalité, que les méchants de la fiction.
Didier Rohde-Bettoni, vous préférez un vrai méchant à un faux gentil?
C'est pas un peu les mêmes. Un faux gentil, c'est un vrai méchant, finalement. Le livre fourmille de ça aussi, de gens qui maquillent leur méchanceté sous un masque séduisant, affable, mais dessous...
Question piège. Y a-t-il plus de femmes? Y a-t-il plus de méchantes que de méchants ou l'inverse?
Non, il y a plus de méchants. Mais finalement, je crois, il y a plus. Bon, en volume, il y a plus d'hommes méchants, en tout cas dans le livre et dans la culture en général. Mais je crois que les méchantes nous ont tous et toutes profondément marqués, peut-être plus que les méchants. La Reine de Blanche-Neige, bon, je sais que c'est un des premiers grands traumatismes. Si je devais signaler le méchant ou la méchante originelle pour moi, c'est elle.
Ah oui, d'accord. Alors, si je prends la quatrième de couverture, il y a l'ogre, Dracula, Jack l'Éventreur, Cruella d'Enfer ou Dark Vador. Dark Vador, il est émouvant aussi, Dark Vador.
Mais voilà, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est des méchants qui sont complexes, qui sont ambigus. Leur méchanceté n'est pas unilatérale. Et c'est les méchants avec des failles, avec des blessures. Ils sont attachants, ils sont formidables, ils sont très humains. Et finalement, Dark Vador dans Star Wars, c'est pas lui le vrai méchant, le grand méchant, le méchant total dans les films de George Lucas. C'est l'empereur Palpatine, c'est lui le méchant, le traître, celui qui manipule tout, celui qui cache sa véritable identité pour arriver au pouvoir. Le vrai méchant, le grand méchant, c'est lui, mais c'est pas le méchant le plus passionnant. Le vrai méchant le plus passionnant, le plus marquant, c'est Dark Vador avec son armure, sa noirceur, sa violence apparente et en même temps sa vraie faiblesse à la fois psychologique et physique, parce que quand il retire son armure, on voit bien qu'il est couturé de blessures.
Est-ce que le méchant peut être d'une grande beauté physique?
Alors c'est compliqué. Pendant très longtemps, la méchanceté s'est accompagnée de la laideur physique, en tout cas dans la fiction.
Sorcières.
Que ce soit les sorcières, même les Thénardier, par exemple, une espèce de quelque chose d'assez horrible. On parlait de Dark Vador, on pourrait parler de la bête dans La Belle et la Bête. Dans Dr. Jekyll et Mr. Hyde, on voit bien que Mr. Hyde, quand le personnage se transforme en Mr. Hyde, évidemment, il prend une apparence hideuse, monstrueuse, et le monstre est évidemment un méchant. Immédiatement identifiable. Des méchants d'une très grande beauté, oui, chez les femmes notamment, je parlais de Milady tout à l'heure, mais la marquise de Merteuil également, les femmes cachent souvent, enfin en tout cas, leur méchanceté est sous une apparence chatoyante.
Didier Rohde-Bettoni, à notre micro, je vous rappelle les références de son ouvrage « Les pages noires des méchants » et c'est un ouvrage disponible aux éditions Milan. Dernier intermède en chanson avec Claudia Phillips, « Quel souci, la beau ici », on se retrouve juste après pour conclure et pour vous annoncer le programme de la semaine prochaine.
Oh non ! Non, non, non !
Quel souci la beau ici, c'était Claudia Phillips. Vous retrouverez les références des titres des ouvrages et de leurs auteurs, ceux que vous avez pu entendre ce soir dans Wagon Livre, eh bien, vous retrouverez les références des titres et des auteurs d'ici quelques jours en podcast sur le site de Radion. Je vous rappelle également notre page Facebook, Wagon Livre Yannick Petit, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Mercredi prochain, 23 avril, toujours à 21h sur Radion, deuxième partie du compte-rendu de la 17e fête du livre d'Autun avec d'autres interviews, notamment avec Michel Villemur, journaliste gastronomique pour Confidence d'une ambassadrice et à la table de Marie-Antoinette. Nous aurons le plaisir de vous proposer un petit entretien avec Lola Semona, vous savez, cette comédienne originaire du Haut-Doubs, du Val-de-Morteau, qui a très longtemps incarné le personnage, et qui incarne toujours d'ailleurs le personnage de la Madeleine Proust. Eh bien, Lola Semona n'en est pas à son premier ouvrage. Elle publie un roman aux éditions Pygmalion qui raconte l'enfance de la Madeleine Proust. Nous aurons aussi le plaisir de parler du dernier roman de Gilles Paris, L'été des Lucioles, un roman disponible aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et puis nous accueillerons devant notre micro Pascal Marmet pour Le roman du café aux éditions du Rocher, ainsi que Benoît Martin, ancien contrôleur général de la police nationale, pour un recueil de souvenirs intitulé Anecdotes et histoires policières, Bourgogne, Paris et autres lieux. C'est aux éditions de l'Escargot Savant. Si vous voulez nous retrouver, sachez que nous enregistrerons en public un numéro de Wagon Livre à la librairie L'Autre Monde à Avallon, au 42 Grande Rue, ce vendredi 18 avril dès 18h30, avec Sophie Mouchet, auteur de Hélène Guinepied, 1883-1937, artiste peintre, artisane et pédagogue, une émission donc qu'on enregistre en public à la librairie L'Autre Monde à Avallon et que nous vous proposerons au mois de juin sur les ondes de Radion. Je voudrais, avant de rendre l'antenne, saluer et remercier tous les bénévoles de Lire en Pays Autunois et sa présidente Josette Trio. Et je voudrais aussi remercier Mikhaïl, qui a été mon assistant au cours des reportages et qui a réalisé un très grand nombre de photographies qu'on trouve sur la page Facebook. Je l'en remercie très 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 chaleureusement. Et vous aussi, je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Rendez-vous mercredi prochain, toujours à 21h sur Radion. Excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Au revoir.